Et c'est le journal de Laurence Thomas. Bonjour Laurence.
Bonjour.
À la une de l'actualité de ce vendredi 6 août, le feu vert au pass sanitaire. L'exécutif satisfait de la décision du Conseil constitutionnel, mais l'opposition reste en colère et de nouveaux appels à manifester sont prévus pour demain.
Et il faudra bien un pass pour rentrer à l'hôpital, sauf aux urgences. Les établissements s'organisent. Dans ce journal, illustration à l'hôpital de Saint-Mus de Toulon. Dopé comme jamais la Bourse de Paris et plus largement les places financières européennes. La reprise économique est là, les investisseurs sont euphoriques. Mayday en Méditerranée. Les 553 réfugiés libyens en détresse sur le bateau humanitaire Ocean Viking. Chaleur extrême, manque d'espace, ces rescapés doivent être débarqués au plus vite. Appel radio, jusque-là, sans réponse. Tristesse pour le français Johan Diniz au JO de Tokyo. Dans le 50 km marche, le français abandonne. C'était la dernière course de sa carrière. Et puis Lionel Messi, l'UFC Barcelone, 20 ans d'amour fou, coup de théâtre hier soir. Le club ne le prolonge pas. Le sextuple ballon d'or de 34 ans est désormais un cœur à prendre.
Et puis les invités de la matinale, 7h50, Jean Leonetti, maire LR d'Antibes. On reviendra avec lui donc sur la décision du Conseil constitutionnel. Et puis 8h20, le grand entretien consacré au centenaire de la naissance de Brassens. Trois invités, la proche Jeanne Corporon, adjointe à la mairie de Sète, l'héritier musical Maxime Le Forestier et la jeune génération inspirée par Brassens. Le rapport C'est toi, demi-portion.
France Inter. C'est désormais acté à partir de lundi, passe sanitaire obligatoire pour boire un café en terrasse, manger au restaurant ou se rendre à l'hôpital pour un motif non urgent, c'est-à-dire une consultation, que l'on soit un patient, un accompagnant ou encore un visiteur. Alors dans les établissements, on réfléchit à la façon de mettre en œuvre ce filtrage à l'entrée, ce ne sera pas simple. Reportage d'Alice Cachaner à l'hôpital Saint-Mus de Toulon.
En cellule de crise, direction et chef de service sont réunis. À l'ordre du jour, le pass sanitaire et cette question, comment ne pas empêcher les patients d'accéder aux soins?
Et d'ailleurs, nous ne refoulerons pas des gens comme à l'entrée d'une boîte de nuit.
C'est ce qu'assure Nicolas Funel, le directeur de l'hôpital de Toulon. Mais contrairement à certains nightclubs, il n'y aura pas de test antigénique proposé à l'entrée. La solution est trop coûteuse et la direction préfère miser sur la pédagogie.
Les patients qui ont un rendez-vous en consultation vont recevoir un SMS de rappel leur expliquant que l'évolution du contexte réglementaire rend nécessaire le pass sanitaire pour accéder à l'hôpital.
Il faudra aussi faire preuve de souplesse.
À chaque cas particulier, il y aura une réponse et en tout cas on s'attachera à ce qu'il y ait une réponse. Je ne vous dis pas que ça va être facile.
Pas facile, cette mission de filtrage qui sera assumée par des agents de sécurité. Ils rencontreront des situations délicates comme celle de ces deux femmes qui fument l'air grave à l'entrée de l'hôpital. L'une d'elles n'est pas vaccinée.
On rend visite à ma sœur qui a un cancer et à qui on nous a annoncé ses derniers instants de vie. On a autre chose à faire que de penser à faire le pass sanitaire ou le test PCR, etc.
On ne demande rien à personne. Moi, ce que je demande, c'est qu'on me fouche la paix et que je voie ma fille, c'est tout.
Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a assuré qu'une tolérance serait accordée aux proches d'un patient en fin de vie ou en situation d'urgence.
Alice Cachaner. Et puis à partir du 15 septembre, les personnels soignants des hôpitaux, cliniques, EHPAD, des maisons de retraite auront l'obligation d'être vaccinés contre le Covid-19 pour travailler. Ils devront justifier d'au moins une dose de vaccin et auront jusqu'au 15 octobre pour obtenir un schéma complet de vaccination. Alors ce feu vert à la vaccination obligatoire des soignants conforte l'État dans sa gestion de crise, mais en revanche, il passe mal chez certains professionnels de santé, plus largement dans l'opposition, Simon Le Baron.
Le feu vert au pass sanitaire, une décision cousue de fil blanc, dénonce le porte-parole du Rassemblement National.
Il n'y avait rien à attendre de la décision du Conseil constitutionnel qui est politisée et inféodé au pouvoir.
Tentative de minimiser la portée de cette victoire politique pour l'exécutif, Julien Odoul promet en tout cas de ne pas en rester là.
Le combat va continuer évidemment, il va être politique puisque ce pass sanitaire va montrer qu'il est inefficace, qu'il est inégalitaire et qu'il est surtout inapplicable.
Même chose chez les Insoumis, le député Hugo Bernalici.
Nous allons continuer à contester l'application de ce pass sanitaire en espérant que le gouvernement revienne à la raison et arrête de fracturer le pays et de diviser le pays.
Il faut respecter la décision des sages, tempère le sénateur Patrick Kanner, ce qui ne l'empêche pas de douter, lui aussi, du succès du pass. Lui qui réclame toujours, avec ses collègues du PS, la vaccination obligatoire pour tous.
Le pass sanitaire est un outil, pour moi, très imparfait, très difficile à mettre en œuvre et qui, je crois, ne calmera pas les mécontentements des Français que nous voyons s'exprimer de plus en plus.
Une nouvelle journée de manifestation est prévue samedi, la quatrième consécutive.
Simon Le Baron, et quelques heures après le feu vert du Conseil constitutionnel au pass sanitaire, Emmanuel Macron a publié hier soir une nouvelle vidéo sur les réseaux sociaux pour défendre le dispositif. Sur Instagram et TikTok, le président de la République appelle les Français à jouer collectif.
La liberté ne se conjugue pas au singulier. Et donc notre liberté à chacun, elle n'existe, elle ne tient que parce qu'aussi on protège les autres et on respecte la liberté des autres. C'est la même chose pour se faire vacciner, la même chose pour le pass sanitaire. Je peux décider de ne pas me faire vacciner et rester à la maison. Mais si je vais dans des lieux où je risque de contaminer d'autres personnes qui, elles, ont pris des précautions, peut-être ont une dose, à ce moment-là, je dois ou me faire tester ou me faire vacciner. C'est la liberté responsable, la liberté d'une citoyenne ou d'un citoyen.
Emmanuel Macron hier soir sur les réseaux Instagram et TikTok. En Italie, où la vaccination du personnel soignant est obligatoire depuis maintenant mars dernier, passe sanitaire obligatoire à partir du 1er septembre pour les enseignants et les étudiants universitaires. Ce certificazione verde est également obligatoire dans les trains et les avions en Italie.
Du jamais vu, depuis septembre 2020, le CAC 40, l'indice phare de la Bourse de Paris, caracole à des niveaux records depuis plusieurs jours.
L'indice oscille entre 6700 et 6800 points, la preuve d'une reprise économique solide dans l'Hexagone, de l'optimisme chez les investisseurs, associé aux bons résultats des entreprises au premier semestre. Et c'est la même tendance, Fabien Cazot, même tendance positive dans les salles de marché de Londres et de Francfort.
Portés par une croissance économique redevenue positive en France et en Europe, les marchés boursiers s'envolent. Le secteur bancaire tire particulièrement son épingle du jeu. Plus 20% pour l'action BNP Paribas depuis 6 mois. Plus 60% pour Société Générale. Signe de confiance dans une reprise portée par la consommation et surtout par l'investissement des entreprises. Car plusieurs poids lourds industriels renouent avec une croissance forte de leurs marges. Stellantis, issu de la fusion entre PSA et Fiat Chrysler, a annoncé cette semaine, en même temps que des résultats records, son intention d'investir 30 milliards d'euros dans les voitures électriques d'ici 2025. Les cours de bourse sont en passe de retrouver leur niveau record d'il y a 20 ans, juste avant l'éclatement de la bulle Internet. Gare à la surchauffe, s'alarment d'ailleurs aujourd'hui certains analystes boursiers, selon qui l'euphorie actuelle, portée par le déconfinement et le déploiement de la vaccination, méritera d'être confirmé dans la durée.
Fabien Cazot.
SOS Méditerranée, l'Ocean Viking lance un appel à l'aide.
Cela fait une semaine que le bateau de l'organisation humanitaire cherche un port où débarquer 553 réfugiés libyens. Un sur cinq est mineur. Il y a plusieurs femmes enceintes et un bébé de 3 mois à bord. Sous une chaleur écrasante, certains font des malaises. Le navire est au large de Malte et de l'île italienne de Lampedusa. L'équipage lance des appels radio. Restez sans réponse pour l'instant. Explication de la directrice générale adjointe de l'association, Fabienne Lassalle.
On envoie des demandes depuis le navire. Ce sont des messages qui sont envoyés. Ils sont répétés chaque jour. Et à cette heure, nous n'avons reçu qu'une réponse des autorités maltaises qui était un refus. Et toutes nos autres demandes, elles sont restées sans réponse à cette heure. On n'est jamais à l'abri que la situation dégénère, que ces personnes qui sont si fragiles psychologiquement lâchent, craquent. Et on a déjà malheureusement subi le fait que certains se jettent à l'eau, désespérés. Donc il faut se rendre compte, plus de 500 personnes sur 70 mètres et une équipe de notre côté d'une trentaine de personnes pour les gérer. Donc évidemment, ça peut dégénérer à tout instant.
Fabienne Lassalle, la directrice générale adjointe d'SOS Méditerranée. La compétition de trop pour Johan Diniz. Sa carrière s'est achevée sur un nouveau crève-cœur ce matin sous la chaleur de Tokyo. Le Français, à bout physiquement, a été contraint à l'abandon à mi-course lors du 50 km marche. À 43 ans, champion du monde, triple champion d'Europe et recordman du monde, achève sa carrière sur un nouvel échec olympique. Jérôme Val.
Les mêmes images, 5 ans après, le visage grimaçant, la silhouette qui flanche, une serviette sur la tête. À Rio, Johan Diniz avait été jusqu'au bout malgré les douleurs. Cette fois, dans la chaleur de Sapporo, il a lâché malgré un bon début de course.
Derrière, j'étais pas prêt à me faire aussi mal que j'avais pu me faire mal à Rio. Quoi. Je l'ai fait une fois, il fallait que ça se termine. Quoi. Malheureusement, ça se finit pas bien, mais c'est fini.
C'était sa dernière épreuve. Pour l'ultime apparition de la marche au jeu, Johan Diniz en avait fait un objectif, mais il avoue lui-même, c'était peut-être la course de trop.
Ouais, j'aurais peut-être dû, peut-être l'année dernière, quand c'était reporté, peut-être dire bon, on arrête que de repartir. Ouais, j'ai plus la pleine possession de mes moyens physiques. Malheureusement, il m'a fallu cette course pour m'en rendre compte et c'est un peu triste, quoi.
Recordman du monde, champion. champion du monde, triple champion d'Europe, cet échec ne doit pas faire oublier tout ce qu'il a réalisé, estime Pascal Chira. C'est le référent marche à la Fédération française.
C'est humain, je pense qu'il ne faut pas critiquer ça. C'est le plus beau palmarès de la marche. Et je pense que maintenant qu'il va s'en aller, on va voir vraiment, réellement, tout ce qu'il a apporté à cette discipline.
Johan Diniz arrête sa carrière sans avoir pu briller au JO en 4 participations. Tokyo, Jérôme Val, France Inter.
Stupeur et tremblement sur la planète football. Le FC Barcelone annonce le départ de Lionel Messi pour des raisons économiques. L'Argentin est le premier sous le choc. Il a appris la nouvelle pratiquement au dernier moment alors qu'il revenait tout juste de vacances hier soir. Ces dernières années, le salaire de Messi d'environ 138 millions d'euros par an et ceux d'autres cadres ont plombé les comptes du club catalan, sommé de redresser la barre par la Ligue espagnole. Après 20 ans de vie commune, 35 trophées, donc 4 Ligues des champions, le Paris Saint-Germain serait déjà en discussion pour accueillir l'Argentin de 34 ans.
Et pour terminer, Laurence, cette série particulièrement gourmande qui débarque aujourd'hui sur Arte TV.
Foodie Love, c'est le nom de cette comédie romantique espagnole en 8 épisodes. Une histoire d'amour entre deux gourmets au parcours de vie cabossé. Les personnages principaux d'ailleurs n'ont pas de prénom et pour cause, la star, c'est la nourriture. Une série touchante et alléchante qu'Alexis Demeyer a dévorée.
Tout démarre autour d'une tasse de café pour ces deux trentenaires barcelonais qui viennent de faire connaissance sur un site de rencontre. Le deuxième rendez-vous se fera dans un bar à cocktail, puis ils se retrouveront dans une échoppe de ramen, un stand de glace italienne ou encore un resto gastro spécialisé dans la cuisine moléculaire.
Mmh. Oui. Mmh.
La naissance d'un couple via leur coup de cœur culinaire, c'est la belle idée de Foodie Love, dont cette très convaincante première saison nous balade entre sourires acidulés et larmes au goût salé. Les interprètes des deux tourtereaux sont remarquables de justesse et Agnès Jaoui fait une apparition lumineuse. La réalisatrice catalane Isabelle Couchette filme avec autant de gourmandise les visages des héros, leurs doutes et leurs désirs, que les plats particulièrement appétissants qui viennent émoustiller leurs papilles.
Foodie Love, c'est sur arte.tv.
Merci Laurence Thomas pour la dégustation. À suivre le meilleur des reportages de l'année sur France Inter avec les Zooms. Ce matin, la pandémie vue par les pompes funèbres. On réécoutera le reportage à Lyon de Mathilde Imberti.